Bonsoir à tous, à toutes. Je vous donne des nouvelles d'une jeune fille pour qui on avait demandé de prier pour Saint-Louis-du-Rhône, qui perdait la vue, vous vous rappelez? Hein? Donc apparemment, le bilan fait qu'elle ne perdra pas la vue. Sa vue a baissé énormément, mais elle ne va pas aller jusqu'à la cécité complète. Donc elle va pouvoir continuer à être autonome, à travailler, à se déplacer également, donc d'une manière autonome, elle-même. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est sa maman qui nous disait ça. Nous étions donc à la réunion mercredi à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. On va ouvrir ensemble donc le cantique des cantiques. Pas comment chanter un cantique, on a déjà chanté. Hein. Mais poursuivre dans cette étude, on avait fait l'introduction. Donc on va aller dans la première étude proprement dite. Donc cantique des cantiques, chapitre 1er, verset 5. On va aller jusqu'au verset 17. Et après, on prendra le chapitre 6, versets 11 et 12. Et puis on va poursuivre comme cela. Alors le verset premier, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardien des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Amen. On prend donc le chapitre 6. Je vous laisse tourner les pages. Verset 11. C'est donc la Sulamite qui parle. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Amen. C'est Jésus qui dit que l'amour dont il nous a aimés, il s'adresse à son Père, il dit « Sois en eux », tout simplement, et que je sois également en eux. Amen. C'est-à-dire qu'il nous fait dépositaire de l'amour de Dieu. Et en même temps, il dit « Je veux être en eux », c'est-à-dire qu'il veut être en nous, dans sa personne, tout simplement imprégner notre personne. Alors, en premier lieu, il faut bien garder à l'esprit cette pensée que le bien-aimé à qui la Sulamite s'adresse, eh bien, c'est un berger. C'est pas un roi. C'est un berger. Amen. Celui qu'on ne voit pas, puisqu'il est absent. Hein. Alors, nous avons dans ce premier chapitre, je dirais, un bref duo entre elle et son bien-aimé. Son berger, je le rappelle, est absent de corps, mais elle pense à lui. C'est-à-dire qu'elle l'a dans son esprit, elle l'a dans son cœur. Elle l'aime. Amen. Il est tout pour elle. Vous savez ce que c'est? Et quand approche le moment de la retrouvaille entre un mari et une femme, ou déjà au départ entre une jeune fille et un garçon, ça bat la chamade, eh bien c'est un petit peu pareil. Donc elle pense à lui. Il est à la fois invisible et présent, je dirais comme dans tous les autres chapitres, on le verra ensemble. Et nous avons là une image, je dirais, de l'Église et du Seigneur. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Vous êtes d'accord avec ça? Le Seigneur est avec nous. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours, dans les moments faciles comme dans les moments plus difficiles. » Amen. C'est-à-dire qu'il est là. Même quand ça ne va pas, quand tu dis « mais c'est pas possible », si, il est là. Quand tu galères, quand c'est dur, quand ça devient difficile, il est là, comme quand également tout va bien. Le Seigneur, nous le savons, il est invisible dans nos yeux. Il est dans son ciel de gloire, mais il est également présent par son esprit, tout simplement au milieu de nous. Je disais tout à l'heure, il est en nous, hein, que je sois en eux. Donc, il vit en nous. Amen. Et il veut vivre en nous. C'est pourquoi nous avons besoin, nous, je reviens à ce que j'ai dit autrefois, de le laisser vivre, de le laisser opérer. Amen. Alors, si le cantique des cantiques est un hymne d'amour, c'est aussi, je dirais, une expression de communion intense, une d'union désirée, vous savez, par la Sulamite avec son bien-aimé. Il est loin, il est absent de corps, et elle aimerait qu'il soit là. Donc, c'est un désir, c'est ce désir d'union, il est intense. Elle veut la communion avec son bien-aimé, bien sûr. Alors, communion désirée, établie, comme doit l'être également, eh bien, notre communion avec notre compagnon, avec le Seigneur, avec notre bien-aimé. Amen. Un peu comme le berger, il n'est pas là physiquement, on ne le voit pas, mais il est bien présent. Ayons à l'esprit cela. Dans le passage que nous avons lu, nous apercevons qu'il y a deux tableaux bien distincts. L'un, je dirais, il est pastoral, c'est comme ça que je l'ai nommé. Et c'est le berger, bien sûr, c'est avec le berger. L'autre, il est royal. Et c'est avec Salomon. Vous voyez, pas le même niveau, on peut dire. Quoique, des fois, ils vont y mettre le berger, hein, à la place du berger qu'à la place de Salomon. Vous verrez pourquoi. En tout cas, ces deux tableaux se retrouvent constamment dans le livre, hein, à mesure que vous allez progresser dans la lecture et dans la compréhension de ce livre, vous allez voir comme cela. Alors, le second tableau représente quoi ? J'avais déjà introduit cela la dernière fois. C'est la séduction. Salomon, c'est le séducteur, là. Ça peut vous surprendre. Oh, Salomon, fils de David. Celui, justement, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Celui que Dieu avait loué pour sa sagesse, son intelligence. Eh bien oui, là, il est le séducteur. Il ne faut pas oublier que Salomon a tout essayé ce qui se présentait devant lui. Il est même allé chercher des choses que vous n'auriez pas allé chercher. Des choses peu recommandables. Il a tout essayé. Alors, il représente, je le dis, la séduction, les attraits du monde, ainsi que l'amour du monde. Vous savez que le Seigneur demande de ne pas avoir d'amour pour le monde. Mais, puisqu'il est un Dieu jaloux, de l'amour pour lui. L'amour pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est important. La Sulamite, elle évolue entre ces deux tableaux. Et je dirais qu'il en est de même pour nous. Depuis que nous nous sommes convertis, bien sûr, notre cœur est attaché au Seigneur, notre bien-aimé. Et il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Le feu du premier amour, quelque part, il faut le canaliser, mais il ne faut pas qu'il s'éteigne. Amen. Le canaliser parce qu'on est un peu foufou quand on est jeune converti. Hein, on va faire des exploits et puis après on se rend compte qu'on est allé trop loin ou on ne sait plus trop quoi faire. Mais on se canalise, on devient sage, mais le feu du premier amour, il est là. Amen. Alors, notre cœur est attaché à notre bien-aimé. Notre cœur est avec lui. Bien sûr, nous sommes dans le monde. Nous sommes donc aussi, je dirais, dans ces deux tableaux. Et oui. On y est. On n'est pas épargné par les accros de la vie, par les tentations qui se présentent à nous, par la séduction de ce monde. Amen. Vous êtes épargné par ça? Vous êtes comme le roc, vous, hein? Insensible. Mon œil. Parce que la réalité, c'est que il y a des choses qui nous attirent. Et je dirais que le diable, il sait faire briller ces choses. Il est malin. C'est le séducteur. On l'appelle le singe de Dieu. Singer, c'est faire croire que. C'est ressembler au point que. On dit c'est pareil. Et c'est pas pareil. Alors, le premier chapitre commence par une expression d'amour. Cet amour ardent, mêlé de désir, je dirais, que la Sulamite éprouve à l'égard de son fiancé, de son bien-aimé, bien sûr. Puis nous lisons au chapitre 1, verset 4. Le roi m'introduit dans ses appartements. Ça, c'est l'étonnement. Non ? Quand on lit le texte, on dit, elle parle de son bien-aimé, elle veut qu'il soit présent. Et puis là, voilà, avec le roi, dans les appartements du roi. Hein. Voici une jeune fille qui aime un berger qui se retrouve dans les appartements du roi Salomon, pas n'importe qui. Comment cela s'est-il produit ? Eh bien, la réponse à cette question, elle nous est donnée au chapitre 6, verset 11, nous l'avons lu tout à l'heure, où la Sulamite explique elle-même ce qui lui est arrivé. Et cette explication est pour nous, je dirais, comme une clé qui nous permet de bien comprendre le cantique des cantiques. Est-ce que, et c'est également ce que Dieu nous enseigne au travers de ce livre. Il y a des choses qui paraissent difficiles au premier abord, et puis il suffit de les tourner, ou je le fais moi-même, je le fais, je pense que mon frère le fait aussi, et tous ceux qui prêchent la parole de Dieu le font également, c'est d'aller voir les différentes traductions, pour donner un éclairage, ou plutôt la simplicité d'un texte. Et donc on va le voir ensemble. Ainsi nous relisons le chapitre 6, le verset 11, « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. » Alors nous sommes là, avec la Sulamite, dans un cadre pastoral. D'accord ? Elle est dans le verger. Elle est dans son jardin, appelez-le comme vous voulez, mais elle est dans sa terre, en train de voir comment poussent les arbres. Est-ce que ça fleurit ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de gel ? Est-ce que, eh bien, il va pouvoir y avoir comme ça la pousse des fruits après ? Donc elle est là, bien sûr. Hein. Puis, voilà que de façon inattendue, le verset suivant, le verset 12, nous introduit dans un autre tableau. Elle dit « Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au chat de mon noble peuple. » Alors ici, différentes traductions apportent un éclairage, hein, qui est très important, bien sûr, sur ce passage. Dans la version synodale, nous lisons « Je me suis laissé entraîner imprudemment au milieu des chars. » Elle n'a pas été prudente. Elle n'a pas été vigilante. Vous voyez ? La version Darby, « Sans que je ne m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. » L'âme, c'est quoi ? C'est le siège de la personnalité et des désirs, des sentiments. Et là que peut-être pendant un instant, eh bien, je ne sais pas, son âme a été partagée. Le regard, la vue, peut-être la beauté de ce qui se passait devant elle. Vous voyez, l'éclat, le faste, hein, quand c'est un roi qui passe, quelque part, son passage est marqué. Et oui, et peut-être qu'à ce moment-là, je ne sais pas, manque de vigilance, de prudence, ou quelque part un partage. Bref, mais en tout cas, elle s'est retrouvée, on va le voir, au mauvais endroit. Et le cortège du roi Salomon avec le palanquin et toute sa suite, ainsi que ses soldats sont passés sur ce chemin où se trouvait la Sulamite, et voilà que ce cortège l'a fortement impressionnée. Ils n'arrivent pas des fois d'être impressionnés par certaines choses. Non. Soyez impressionnés par les choses de Dieu, par la visitation du Saint-Esprit. Mais on peut être fortement impressionné, je ne sais pas, par un personnage, par quelque chose. Eh oui. Dans une autre traduction, elle dit « Je ne sais pas comment je me suis trouvé poussé par mon désir au milieu de ce cortège. » Vous voyez, quand je dis « elle était partagée », un bref instant, un petit moment où elle n'a pas su veiller, où elle n'a pas été vigilante. Elle était dans la vigne, et voilà qu'elle se retrouve dans le cortège royal. Alors nous comprenons par cet exemple que, je dirais, dans ce monde, les séductions, les attraits ne sont jamais bien loin. D'ailleurs, si un jour, je le souhaite pour vous, vous avez une belle victoire, méfiez-vous ensuite. Parce que, bien que vous croyez que maintenant vous êtes dans une position confortable, je dirais que c'est la position inconfortable plutôt. Parce que quelque part, vous êtes quelqu'un maintenant. Le Seigneur vous a répondu, vous avez une victoire. Vous avez saisi quelque chose de bon. Le Seigneur a fait de vous quelqu'un. Et ça, l'adversaire le sait. Un homme de Dieu disait ceci, quand on parlait des divers ministères qu'il y a dans le monde, des ministères qui sont ministères mondiaux, il disait, mais quand j'entends la manière dont on élève ces hommes de Dieu, moi je prie pour eux. Parce qu'on les élève, presque on les élève plus que le Seigneur. Et ça, c'est dangereux. N'élevez jamais un homme. Et prenez soin d'élever le Seigneur. Parce que c'est lui qui donne tout simplement la victoire à l'homme. Et il peut ouvrir le robinet, il peut le fermer. Amen. Et puis nous ne sommes que des hommes. Et l'orgueil, ça fait partie de l'homme. Et quand quelqu'un a quelques victoires, l'adversaire peut vite, vite se saisir de lui et le faire aller au-delà de ce que Dieu attend de lui. Vous comprenez ? Attention à l'orgueil. Alors, Elle était dans la vigne, elle se retrouve dans le cortège royal. Je dis que c'est la séduction, les attraits du monde. Et on va faire une chose, c'est qu'on va considérer plus attentivement ce passage. Tout d'abord, au chapitre 6, verset 11, il est question d'une vigne. Elle dit: je suis descendue au jardin des noyers pour voir si la vigne pousse. Cette vigne en fleurs, quelque part, c'est le domaine de la Sulamite. Amen. C'est l'image également de notre vie nouvelle, de cette nouvelle vie que nous avons reçue du Seigneur, sur laquelle nous devons veiller. Amen. C'est-à-dire que veillez sur cette vie nouvelle que Dieu a déposée en vous. Vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous avez été recréé par le Seigneur. Alléluia! Vous n'êtes pas arrivé. Quand je prépare des gens au baptême, je me plais à leur dire: maintenant, vous allez embarquer sur la passerelle du bateau et vous allez commencer la traversée. Mais vous n'êtes pas arrivé. Parce que pendant la traversée, il y a des tempêtes qui se lèvent, il y a des tourbillons, hein, des courants contraires. Eh oui, vous n'êtes pas arrivé. Alors, il nous faut veiller à cette vie nouvelle. Le Seigneur nous l'a confiée, nous l'avons reçue du Seigneur et nous devons veiller sur cela. Amen. En effet, nous lisons au chapitre 1, verset 6. Ma vigne à moi, nous l'avons lu tout à l'heure en introduction, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. On lui a confié leur vigne, ta famille lui a confié les vignes, mais elle n'a pas veillé sur sa vigne à elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas veillé sur sa vie. Amen. Et là, on peut dire ceci, malgré son attachement qui est sincère et qui est véritable, son amour profond et ardent pour le bien-aimé, eh bien, la Sulamite, elle a quitté l'endroit où elle aurait dû rester. Elle n'était plus au bon endroit. Amen. Soyez là où Dieu vous veut et pas ailleurs. Par jalousie ou je ne sais trop quoi, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Amen. Et c'est là que vous serez béni, c'est là que vous ferez plaisir à Dieu. C'est là que Dieu va se réjouir de vous, de vous voir, hein, de vivre sa vie en vous. Amen. N'oublions pas également que bien que nous aimions le Seigneur de tout notre cœur, eh bien le monde est là, le monde, avec toutes ses faces et ses attraits, et il peut nous attirer. Donc il faut veiller à rester dans la vigne. Amen. Et dans cette vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée, et de ne pas nous laisser séduire et conduire hors de l'endroit où le Seigneur nous veut. Savez-vous où Dieu vous veut? C'est important de lui demander pour savoir où on doit être, évoluer comme on doit évoluer dans sa présence, se réjouir, ne pas marcher à tâtons, ne pas être dans l'inconnu, mais avancer tout simplement, eh bien, ne pas sûr, rassuré. Il est là. Mon bien-aimé, il veille sur moi. Amen. Alors, il y a des rencontres et des situations qui peuvent être pour nous, bien sûr, enfants de Dieu, une occasion de chute. C'est pour ça que nous avons besoin de faire attention à nos fréquentations, les lieux que nous fréquentons aussi. Amen. Eh oui, il y a des lieux qui ne sont pas pour le chrétien, hein. Il y a des personnes, excusez-moi, ne sont pas faites pour nous, hein. Nous aimerions qu'elle soit sauvée, oui, mais il y a un temps de Dieu, puis quand c'est Dieu, ça change les choses, mais si c'est que pour qu'au fur et à mesure, eh bien, nous leur ressemblions, non. C'est le contraire qui doit se produire. Amen. Nous sommes des gens de la vérité, nous ne pouvons pas pactiser avec le mensonge, par exemple. Eh oui, donc, vous voyez un petit peu, c'est important, hein. Alors ainsi, je dirais que quelle que soit notre maturité spirituelle, même si nous pensons être bien affermis dans la foi, être seulement au Seigneur, nous devons être vigilants, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit, par laquelle justement Dieu, eh bien, se plaît d'interpeller notre conscience, à nous avertir également du danger. Amen. Le Seigneur veut nous garder, il veut nous préserver. Son rôle à lui, c'est cela. Il est notre papa. Notre Père bien-aimé. Amen. Et ce qu'il veut, c'est notre bonheur, c'est notre réussite. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait avec des enfants couchés par terre? Il préfère d'avoir des enfants debout, hein? pour ça qu'il ne faut pas aller au-delà non plus. Parce que quand on s'est ramassé, on s'est ramassé. Et après, il faut se relever. Donc c'est important. C'est l'apôtre Paul qui dit dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. Oh, pasteur, moi, vous savez, je crains rien. Hop, 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 hop. Alors, toi, tu es déjà mal barré. Pas vrai? Oh, ça me fait pas peur. Ouais, ok. Tu as déjà été confronté à certaines choses un peu particulières? Eh oui. Alors, notre place à nous, elle est dans la vigne et nous devons garder, justement, veiller sur cette vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée. On va revenir au texte, donc au chapitre 6, verset 11, où la Sulamite dit ceci: « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. » Alors on va examiner cette démarche, démarche première de la Sulamite. Pourquoi est-elle descendue au jardin des noyers? Comme il est dit, pour voir si la vallée a verdi, si la vigne a poussé, si les grenadiers ont fleuri. Alors, ces choses sont pour nous, je dirais, des symboles de notre vie nouvelle. Amen. Ça doit fleurir en nous, ça doit produire des fruits. Hein. Ça doit être l'objet de nos pensées. Avancer, faire des progrès, porter du fruit qui demeure, du fruit à la gloire de Dieu. Ça doit être notre préoccupation, comme c'était sa préoccupation. Amen. Elle devait veiller sur son jardin. Et nous devons veiller également sur notre jardin, sur notre vie. Amen. Le chrétien doit être préoccupé par cette vie nouvelle, cette vie merveilleuse reçue du Seigneur. Et comme la vigne est destinée à pousser et à donner du fruit, eh bien, il nous faut, je dirais, laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Il faut que l'Esprit de Dieu, que le Seigneur, puisse agir dans nos vies afin que cette vie nouvelle, cette vie spirituelle, puisse s'épanouir et produire de beaux fruits, des fruits magnifiques. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va le produire. C'est la visitation de l'Esprit de Dieu qui fait que je suis changé, transformé. Amen. Dans des situations, j'ai pu le vivre et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu cela. Mais un moment avant, j'étais dans des situations difficiles. Et puis, il y a eu une visitation de l'Esprit et tout a changé. Tout a changé. Nouvelle approche de l'événement. Nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Une solution qui était là et je ne la voyais pas. La personne en face a changé. Elle n'a plus le même état d'esprit. Une action de l'esprit, c'est lui qui, quelque part, enrichit notre vie. C'est la conduite du Saint-Esprit dans nos vies, si nous le laissons conduire, qui va faire que oui, nous allons nous épanouir. Nous allons devenir forts. Nous allons, comme cela, eh bien, produire des beaux fruits, des fruits magnifiques. Nous allons glorifier le Seigneur. Vous avez envie de glorifier le Seigneur? Dites-moi oui. Ah. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, nous dit: Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Hein? Amen. Ayez ça comme obsession dans l'esprit. Seigneur, je veux te glorifier. Alléluia. Au chapitre 6, verset 12, nous, du Cantique des Cantiques, bien sûr, quelque chose s'est produit. Elle dit, je ne sais. Ou dans une autre version, je ne sais comment cela s'est fait. La version synodale dit, je me suis imprudemment laissé entraîner au milieu des chats. Nous l'avons vu tout à l'heure. Hein. Alors nous devons veiller afin de ne pas perdre ce que j'appelle la sensibilité. La sensibilité qui permet justement au Saint-Esprit de Dieu de nous avertir, de nous révéler ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour notre vie. Chaque jour, devenons de plus en plus sensibles. Amen. Parce que quelquefois, on ne prend pas le temps de réfléchir ni d'interroger le Seigneur. On s'engage dans une voie et puis après, on dit: aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai fait de mettre le doigt, la main, je ne sais trop quoi. Jamais j'aurais dû me mêler de cette histoire. Donc, quelque part, allez, ayons cette sensibilité. Ça va permettre à l'Esprit de Dieu nous montrer, ça c'est pour toi. Non, non, surtout ne va pas là. Amen. Surtout ne te mêle pas de cette histoire. Laisse faire. Amen. C'est ce qui faisait dire à Paul, à l'attention des chrétiens de Rome, donc Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour nous, c'est ça. C'est ce qui est agréable, bon et parfait, qui fera que nous allons être bien. Alléluia. S'endormir le soir du sommeil du juste. Amen. Ne pas avoir à passer un long moment à genoux devant Dieu en train de pleurer parce que on a été, excusez-moi, s'est comporté comme un imbécile. Et on le regrette amèrement. On a donné un mauvais témoignage. Vous comprenez? C'est bon, hein? C'est important. Parce qu'en dehors de cela, qu'est-ce qui se passe? Et selon l'expression « sans savoir comment », eh bien, nous pourrions nous détourner de notre communion, notre relation avec notre bien-aimé, tout en disant « je l'aime ». Mais il y a un mur maintenant, il y a une barrière. J'ai laissé une barrière se dresser entre lui et moi. Moi-même, je l'ai dressée parce que j'ai agi comme un imbécile. Hein. J'ai besoin d'être sage. Hein. Amen. Nous sommes attachés au Seigneur, nous lui appartenons. Il est notre bien-aimé, celui que notre cœur aime. Et pourtant, eh bien, il peut y avoir des moments où, hélas, nous pouvons sortir du cadre de cette vie nouvelle. Amen. Et nous laisser, comme il est dit, imprudemment entraîner au milieu des chars. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Vous, elle-même, la Sulamite. Amen. Elle l'avoue elle-même. Hein. C'est allé très vite. Mais voilà, c'est fait. C'est fait. Eh oui. La Sulamite s'est finalement retrouvée dans les appartements du roi, dans un cadre intime, proche de la personne, hein, vous savez, de celui qui est l'image des attraits du monde, de la séduction. Pas peu de choses. Elle est au contact maintenant. Elle est dans les appartements du roi, dans l'intimité de celui qui est le séducteur. Elle est donc aussi proche du danger que nous pouvons l'être parfois, bien sûr, car la séduction, les attraits du monde, c'est aussi notre part. Ils ne sont pas coupés du monde. Nous sommes dans le monde, bien sûr, nous n'avons pas et ne devons plus avoir la mentalité du monde, mais nous sommes au contact de ce monde. Et ça peut aller très vite. Très vite, on peut basculer. Eh oui, eh oui. Mais là, devons nous souvenir que le Seigneur Jésus a prié pour nous. Il a prié pour l'Église, il le fait encore, hein. Il le fait pour chacun de ses disciples. Et dans cette prière que nous trouvons dans Jean chapitre 17, versets 15 et 16, il est dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Amen. Donc ne demandez pas à être sur une île déserte. Ce n'est pas le but du Seigneur parce que vous devez être son témoin. Vous devez être sa lumière dans le monde. D'accord. Donc je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Là est la vérité. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Amen. Donc, de votre en contact. Pas être comme eux. Pas nous laisser entraîner ou pactiser avec. Vous voyez, faire des mauvaises alliances. Non, non. Mais nous sommes à leur contact. Et nous pouvons être préservés. Tout en restant solidement à l'abri du Très-Haut. Amen. Et Jean, dans sa première lettre, nous avertit, c'est 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 17, à 17, afin que nous soyons gardés. Quand il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Le monde passe, ça convoitise aussi. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Je reprends ce texte dans la parole de vie. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Vous voyez, c'est plus fort. Il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. L'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas. Les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là, il vit pour toujours. Amen. Notre dimension à nous, c'est l'éternité. Amen. C'est l'éternité. On n'est que de passage. On est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ce que nous sommes. Amen. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je risque de plus être là. Un jour, un serviteur de Dieu, il était dans une annexe. Ça se passe en Haute-Savoie. Il prêche un message un soir et puis dans l'auditoire, les frères et sœurs disaient « Mais Qu'est-ce qu'il nous dit là? À sa femme, avant de partir, dans la semaine, déjà, il a commencé à lui parler. Il avait commencé à lui parler. Ah, si un jour il m'arrive quelque chose, on ne sait pas. Hein, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. J'ai fait ça, j'ai laissé également un dossier là. Voilà. Hein. Sa femme ne faisait pas attention parce que, bon, il lui disait, c'est pour que sache où il est. Bon, le jour où il n'est pas là, ben, je pourrais toujours sortir les dossiers. Elle pensait qu'il, bien sûr, il peut être en mission ailleurs ou autre, vous voyez. Et à l'église, ce soir-là, donc, c'est en semaine, eh bien, il leur parlait comme s'il leur parlait de son départ. Les frères et sœurs disaient, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Et puis sur le chemin du retour, eh bien, il est tombé dans un ravin. C'était le temps de Dieu pour lui. Amen. Bien sûr qu'il y a eu les larmes, la famille, le déchirement, la séparation, l'église aussi, quand elle a perdu son berger. Mais lui, quelque part, sans s'en rendre compte, il était averti, ou il avertissait l'église que Dieu allait le reprendre. Amen. Donc ça peut aller très vite. Amen. Alors, toutefois, je dirais que nous constatons une chose, c'est au chapitre 1, verset 12, que son cœur, et son cœur, lui, est tout à fait ailleurs. Vous voyez, il est dit, pendant que le roi se repose assis sur son divan, le nard dont je suis parfumé exhale un arôme exquis. Ça, c'est la version synodale. Et comme le montre le verset 13, pendant que le roi était occupé à autre chose, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Verset 13, elle dit, « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » C'est-à-dire qu'elle est mal barrée dans une situation où elle s'est mise dedans parce qu'elle n'a pas été sage, elle n'a pas été vigilante, elle n'a pas été prudente, je ne sais pas. En tout cas, elle est là où il ne faut pas. Mais son cœur, même si elle est consciente, parce que ça, il y a un parfum, il y a toute une atmosphère autour d'elle, mais elle se dit, mais mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, alléluia, qui repose entre mes seins. Et soulignons là deux choses importantes. Si la Sylamite a été fascinée et attirée de manière irrésistible par les faces du cortège, l'appartement royal, etc., sa suite, son cœur, finalement, il n'a pas été conquis. Elle est encore plus attachée, je dirais, encore à son bien-aimé. Amen. Plus qu'au roi, plus qu'à ce qu'elle voit. Alléluia. Oh, Salomon, il tente bien de la séduire. Hein, mais le cœur de la Sulamite, il est à son bien-aimé, pas un autre. Il n'est pas partagé. Il est tout entier à son bien-aimé. Amen. Et nous le voyons, alors qu'elle se trouve dans une situation délicate, je dirais même dangereuse, eh bien, la Sulamite n'a qu'une pensée qui concerne, je dirais, son bien-aimé. Elle désire le retrouver. Elle désire tout à nouveau, je dirais encore plus, la communion avec lui, au chapitre 1, verset 7. « Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ?» Et je prends la parole de vie, ce même texte. « Toi, que mon cœur aime, dis-moi, où tu conduis ton troupeau ?» Dis-moi où tu le fais reposer à midi. Ainsi, je n'aurai pas l'air de courir partout près des troupeaux de tes camarades. Amen. Elle n'a qu'un désir, c'est retrouver son bien-aimé. Retrouver son berger. Amen. Comme le dit celui que son cœur aime. Alléluia. Alors par là, bien sûr, nous sommes amenés à comprendre que si parfois, eh bien, nous nous mettons là dans des situations délicates, glissantes, dangereuses, voire incommodante, l'important pour nous en sortir sera en réalité l'amour que nous aurons pour le Seigneur. Est-ce que j'aime le Seigneur plus que tout? Il y a des situations où il nous faut être vrai, je me suis planté. Mais parce que je t'aime, Seigneur, je ne veux pas tricher. Amen. Et j'ai fait naufrage, je me suis trompé, et j'ai fait ce que je ne devais pas faire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que mon cœur pleure devant toi et je ne veux pas que toi tu pleures. Alors Seigneur, pardonne-moi. Et si notre communion avec lui est établie, je dirais que le Seigneur sera toujours là par sa puissance ou la puissance de son esprit pour nous aider et pour nous ramener, je dirais, dans la voie droite. Amen. C'est important. Parce que sinon nous allons faire naufrage. Et ça peut être des fois des chemins et des situations irréversibles. Amen. Ça, c'est pour ce soir. Vendredi prochain, c'est pas moi. Hein, ce sera le pasteur Jacques Elbaz, missionnaire en Israël. Voilà un petit peu la manière dont on va traiter donc, le cantique des cantiques. Hein. Au fur et à mesure, on va ôter des coins de voile. Hein. Je pense qu'on fait que ça, Cyril. Très bien, voilà. Et puis, comme ça, vous aurez. Il me proposait même d'en faire le mardi quand je suis là, que l'une n'est pas là. Donc, on peut le faire. C'est enregistré hein, pour ceux qui ne peuvent pas être là, par exemple, le mardi. Donc, on fera ça. Et puis, vous aurez comme ça toute l'étude. 8 petits chapitres. Mais combien grand par la connaissance qu'il peut nous apporter. Hein. Merci, Seigneur, pour ta